C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit le professeur Jacques de Guise.
Oui, Jacques de Guise, professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'École des technologies supérieures. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale. Il dirige également le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, le LIO.
Jacques de Guise, bonjour.
Oui, bonjour.
Cette semaine s'est tenue une grande conférence à Montréal sur le futur de la santé, sur les impacts de cette grande révolution qu'amène l'Internet des objets, la robotique, le big data, l'info nuagique. Alors ce futur semble plein de promesses pour le progrès médical, mais il provoque aussi des craintes. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Bon, je ne pense pas qu'on ait raison d'avoir peur. Évidemment, derrière toutes ces technologies, il y a des humains. Alors, il y a le côté de l'humain qui peut proposer des solutions qui sont intéressantes pour l'humain. Puis il y a toujours des humains qui vont aussi aller du côté obscur.
La force obscure, la fameuse force obscure,
si on peut parler comme ça. Donc, pour moi, bien non, on n'a pas à avoir la crainte de ces nouvelles technologies comme on n'a pas eu à avoir la crainte dans le passé.
Alors, vous dirigez le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, on le rappelle, le LIO. C'est un laboratoire universitaire qui est lié à l'École des technologies supérieures. Vous êtes donc des ingénieurs au service de la santé. J'ai été voir votre site web, il y a une liste de spécialités médicales absolument impressionnante. Alors, juste pour le plaisir, est-ce que vous pourriez nous partager vos plus belles avancées?
Bon, nous, on a un grand privilège. On est effectivement des ingénieurs, des chercheurs dans le domaine du génie, de la santé. Et notre premier privilège, c'est de pouvoir avoir nos laboratoires en site hospitalier universitaire, ce qui nous rend beaucoup plus près des utilisateurs.
Les préoccupations, finalement, des usagers.
Oui. Exactement. Et on a développé tout un écosystème qui permet de répondre aux besoins des professionnels de la santé. Donc, voilà, c'est cet aspect-là qui nous préoccupe, c'est d'être sur les sites où on a besoin des technologies pour répondre aux besoins des usagers, que ce soit des professionnels de la santé, des patients et même des partenaires industriels.
Oui, on dit souvent que les professionnels de la santé sont les experts de la maladie, les patients, leurs proches sont les véritables experts de la vie avec la maladie. Est-ce que c'est ça justement que vous servez à cette philosophie-là avec justement ce travail hors les murs en quelque sorte?
Oui, tout à fait. C'est d'intégrer l'ensemble des acteurs de l'innovation. L'innovation, pour nous, c'est de l'idée jusqu'à un produit qu'on peut amener au chevet du patient. Et tous les acteurs doivent être présents, à notre avis, dès le début du projet, dès la genèse du projet. Donc, nous, ce qu'on a développé dans le cadre de notre laboratoire, c'est vraiment une approche de laboratoire vivant où les patients, les professionnels de la santé, les ingénieurs, les industriels vont travailler ensemble à développer des nouveaux produits, des nouvelles modalités d'intervention au service des patients, justement, et de la santé.
Monsieur de Guise, vous n'avez pas répondu à ma question.
Oh, désolé.
Non, pour rendre ça plus concrètement, parce que ça a l'air vraiment passionnant, quelques exemples d'avancées.
Bon, on revient effectivement à votre question. J'ai d'abord situé le contexte. Oui, on a eu le privilège de développer quelques technologies qui sont aujourd'hui au chevet du patient. On a travaillé avec un groupe français, dont le prix Nobel de physique, Georges Charpak, et on a construit avec lui, on a proposé un nouveau système de radiographie à très, très basse dose qui, à partir de seulement deux radiographies, permet d'aller chercher l'ensemble des informations 3D du squelette humain. En particulier pour les enfants qui ont des scolioses. Donc, la première application, ça a été dans notre hôpital ici à Montréal, pédiatrique, Sainte-Justine. Maintenant, c'est plus de 300 systèmes qui sont en service un peu partout dans le monde. Et on continue à travailler avec la compagnie qui, au départ, est française, mais qui vient de créer une filiale à Montréal depuis à peu près 5 ans pour se rapprocher de notre groupe de recherche et continuer à développer avec eux et inclure les approches d'intelligence artificielle que vous avez évoquées au tout début. C'est une première technologie. Il y en a une seconde qu'on appelle le NKG en anglais. C'est pour la graphie de la cinématique du genou. Donc, c'est une technologie qui permet l'évaluation en mouvement du genou et donner une information fonctionnelle. Quand on a mal au genou, c'est pas quand on est assis comme là, nous.
La genographie, en quelque sorte.
La genographie, c'est ça, qui permet d'aller chercher la signature du mouvement du genou. Et elle aussi, cette technologie-là, est au chevet du patient maintenant.
Mais alors, Jacques de Guise, moi, je vais revenir à l'environnement parce que le contexte, parce qu'il est très intéressant aussi. On parle là beaucoup d'innovation dans le domaine technologique et des technologies. Quand on parle de futur de la santé aussi, de manière générale, général, mais vous, vous pratiquez et vous êtes un fervent défenseur de ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Ce fameux travail collaboratif qu'on a quelque part à aborder, justement, c'est quoi qui caractérise cette innovation ouverte? C'est cette collaboration, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Et là aussi, est-ce qu'il y a des exemples concrets de ce qui caractérise cette innovation ouverte?
C'est exactement le travail, ce qu'on appelle un laboratoire vivant. C'est à peu près synonyme, innovation ouverte et laboratoire vivant. Donc, c'est comme on le disait un peu plus tôt, c'est d'intégrer tous les acteurs de l'innovation dès la genèse d'un projet. Donc, évidemment, les ingénieurs, les informaticiens, on crée les outils, on crée les modalités d'intervention, mais essentiellement avec aussi les cliniciens. Nous, dans notre laboratoire, 100% de nos projets, on a des cliniciens qui leur sont associés. Et pour assurer un transfert vers l'industrie, on a des partenaires industriels qu'on inclut aussi très tôt dans le processus, au tout début du processus. Donc, c'est vraiment une innovation ouverte où tous les acteurs sont ensemble pour créer les nouveaux produits ou les nouvelles façons d'intervenir.
Est-ce que c'est un exemple de cette notion de partenariat de soins dont on parle de plus en plus? Est-ce que ça la caractérise?
De plus en plus, oui. C'est ces partenariats de soins où on essaie aussi d'intégrer, quand c'est possible, des patients, qu'on appelle des patients experts ou des patients partenaires. D'ailleurs, ici au Québec, on a créé quelque chose qui est à peu près unique au monde. On parle du modèle de Montréal. Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais c'est le centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public. Et c'est un centre qui est associé à la Faculté de médecine et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et qui propose l'intégration des patients dans les épisodes de soins. Donc, des patients qui viennent aider les équipes soignantes avec leur expérience de leur maladie et qui accompagnent les équipes soignantes là, auprès des patients qui sont pris avec ces problèmes-là.
Oui, c'est ça, ce fameux modèle Montréal, ce qui la caractérise, c'est équilibre entre approche entrepreneuriale pragmatique, rigueur académique universitaire et puis défense des droits des patients et co-construction empathique. C'est ça la définition qui est donnée, mais visiblement...
C'est une excellente définition.
Puisqu'on parle de collaboration, continuons. La recherche partenariale, donc le LIO, l'expérimente depuis 20 ans, là, c'est pas nouveau. On parle finalement de partenariat public-privé. Il y a des enjeux, effectivement, de financement. Le partenariat public-privé en santé, ça n'a pas toujours un écho très positif, mais finalement, est-ce que ça serait le meilleur modèle?
Pour nous, c'est un modèle qui est extraordinaire parce que nous, on est des universitaires, on tient à faire de la recherche, on tient à contribuer à un nouveau savoir, mais on tient aussi, par la mission qu'on s'est donnée, de prendre nos idées qui sont développées dans nos laboratoires, qui sont des contributions à des nouveaux savoirs, mais les amener au chevet du patient. Et ça passe nécessairement par la commercialisation. Et aujourd'hui, il y a des modes de financement qui sont vraiment intéressants, qui font du Canada, du Québec, de Montréal, un des endroits où c'est le plus intéressant pour des entreprises de faire de la recherche avec des universitaires. Il y a des programmes qui permettent de bonifier les mises de fonds que sont prêtes à faire les entreprises, les multiplier par 2, par 3, par 4, et qui permettent justement, au lieu d'avoir un seul étudiant qui travaille sur un projet pour une entreprise, mais c'est d'avoir toute une équipe de recherche pendant des années qui vont contribuer ensemble à développer des nouveaux produits, des nouvelles modalités d'intervention, avec chacun notre mission. Les universitaires, notre première mission, c'est évidemment de contribuer au nouveau savoir, mais de former du personnel hautement qualifié. Les entreprises partenaires, leur mission, c'est d'avoir un succès commercial. Et si leur succès commercial est obtenu grâce au partenariat qu'ils ont eu avec les universités, ça va permettre des développements durables, des projets durables, des maillages durables. Mmh. Nous, par exemple, on a des entreprises avec qui on travaille depuis plus de 20 ans et qui permettent justement, encore une fois, de remplir chacun notre mission. Et la mission universitaire, c'est de former du personnel hautement qualifié et de contribuer au nouveau savoir.
Alors justement, 20 ans, il y a 20 ans, vous parliez déjà d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, évidemment, aujourd'hui, en particulier à Montréal. Beaucoup d'argent, c'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs, est investi actuellement dans le domaine, notamment pour des applications en santé. Mais cette semaine, dans le supplément du Devoir qui était consacré au sujet, presque un appel au secours, en l'occurrence celui de Joëlle Pinault, qui est directrice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui est mis en place par Facebook. Elle dit « on a de l'argent, mais on manque de main-d'œuvre, en particulier de main-d'œuvre opérationnelle, c'est-à-dire celle qui fait tourner les outils développés dans les laboratoires de recherche. Vous, dans votre laboratoire, le LIO, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce qu'il vous manque de la main-d'œuvre opérationnelle? »
Pour le moment, on est très chanceux, on va se croiser les doigts.
Allez, on croise tous les doigts.
Mais on est une cinquantaine seulement au CHUM dans notre laboratoire. On réussit à attirer des étudiants qui sont intéressés par les problèmes de santé, par le fait qu'on est sur site hospitalier universitaire, puis comme vous le savez, à Montréal, on a 3 sites hospitaliers universitaires tout neufs, donc des locaux extraordinaires qui mettent à notre disposition des infrastructures uniques. Et donc ça, c'est une des premières façons d'attirer des étudiants. On travaille avec ces nouvelles approches, ces nouvelles technologies-là, et on développe des nouveaux dispositifs, des nouvelles technologies, encore une fois, pour améliorer la santé des gens. Et donc, c'est tous des effets attractifs pour des étudiants, pour des assistants de recherche qui viennent d'un peu partout dans le monde. Évidemment, nous, on travaille en français. On est très fiers de parler français et de faire de la recherche en français.
Mais il n'y a pas de honte à ça, au contraire.
Au contraire, et nous, c'est un des drapeaux qu'on lève. Et on attire de toute la francophonie des étudiants, des chercheurs qui viennent travailler avec nous.
Justement, quel profil vous recherchez?
On cherche des programmeurs. On cherche des gens qui aiment les défis, qui aiment travailler en équipe pluridisciplinaire, intersectorielle. On aime les gens curieux. On aime les gens qui, justement, aiment relever ces défis et sortir d'une zone de confort. On n'est pas dans un laboratoire, dans une école d'ingénieurs. On est dans un laboratoire sur site hospitalier où tous les jours, on côtoie des médecins, des patients et des professionnels de la santé. Donc, en dehors du cadre, et souvent, les gens qu'on attire, c'est des gens qui ont cette curiosité, qui ont ces réflexes là, de s'ouvrir au monde. Et ça nous fait des équipes là, d'une richesse là, vraiment impressionnante.
Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à toutes ces médicales, en tout cas, on pense à toutes ces promesses là pour mieux prévenir et pour mieux soigner. Maintenant, de manière un peu plus pratico-pratique, les coûts de la santé ne dégonflent pas et ne vont pas dégonfler. A priori, quelles sont les promesses des technologies pour laisser le système de santé viable? Parce que c'est aussi un enjeu de santé, ça.
Bon, ça, c'est une grande question. Pour un chercheur comme moi, c'est souvent un peu plus difficile de répondre à ces questions-là, mais on a quand même certaines réflexions à ce niveau-là. C'est que c'est toutes ces méthodes, ces techniques qui vont appliquer l'intelligence artificielle vont permettre aux médecins de délaisser des tâches chronophages qui sont répétitives et qui ne sont pas nécessairement utiles immédiatement aux patients. Donc, toutes ces tâches qui prennent du temps qui peuvent être automatisés, ben, vont permettre aux médecins de consacrer plus de temps au patient, à la personne, et de mieux amener ces pratiques de soins
pour optimiser.
C'est ça, ces pratiques de soins, et pouvoir justement passer le meilleur temps possible pour améliorer l'état de santé de son patient et peut-être ainsi minimiser les soins parce qu'il y aura moins de temps d'attente, il y aura moins d'erreurs, il y aura moins de mauvaises directions vers le mauvais spécialiste. Bon, je dirais pas mauvais spécialiste, mais vers le spécialiste qui est pas qui devrait pas être attitré à ce patient-là. Donc, je pense qu'on peut optimiser les soins de santé en première ligne pour mieux diriger les patients et mieux répondre à leurs besoins avec ces techniques.
Merci Jacques de Guise. Je rappelle et je prends une grande respiration. Vous êtes entre autres professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'ETS, professeur associé au département de chirurgie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous dirigez le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie affilié au centre de recherche du CHUM, du CHU Sainte-Justine et de l'hôpital du Sacré-Cœur. Et j'en oublie. Grand merci.